إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد شخخ وإن شاء الله تعالى dans la conférence de ce soir, méditer sur un hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers la transmission de ce hadith, on va se plonger dans une assise parmi les assises de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Et on va, inshallah ta'ala, tirer des leçons de leur comportement et de leur manière de discuter, de traiter et de rechercher les questions liées à la science. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, an Hussein ibn Abd al-Rahman, d'après Hussein ibn Abd al-Rahman, c'est-à-dire As-Sulami. C'est un des tabi'in, un digne de confiance, qui rapporte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la transmission de certains des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il dit donc radiyallahu ta'ala anhu, qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr. J'étais auprès de Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr, qui est un des grands imams parmi les savants des tabi'in, c'est-à-dire des disciples, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il était un imam parmi eux, que ce soit en termes de science, de compréhension, mais également en termes de piété. Et il fait partie des élèves du grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son cousin, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Sa'id ibn Jubayr, il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui l'a exécuté alors qu'il n'avait même pas encore atteint les 50 ans. Malgré cela, il avait réuni énormément de science auprès d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu et d'autres de ses professeurs. Donc à sa mort, la communauté musulmane a perdu un de ses grands savants. Il dit donc rahimahullah, kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr rahimahullah. Faqala Sa'id, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadha al-bariha? Sa'id ibn Jubayr, il a interrogé les gens qui étaient avec lui dans l'assise et il a dit: qui parmi vous a vu l'astre qui est tombé la nuit dernière, c'est-à-dire la nuit passée? Il interroge donc les gens présents dans son assise à ce sujet. Et ce qui est visé par l'astre, ici, c'est l'étoile filante, celle que l'on voit parfois dans le ciel et qui sont en réalité des projectiles jetés sur les diables qui viennent tenter d'écouter les nouvelles du ciel pour la rapporter à leurs disciples et leurs fidèles parmi les sorciers, les devins et autres charlatans. Donc, il interroge les gens qui sont présents dans son assise, afin de savoir qui a vu cette étoile filante durant la nuit. Alors Hussein ibn Abd al-Rahman, rahimahullah ta'ala, a dit « Ana, moi je l'ai vu ». C'est-à-dire qu'il a vu cette étoile filante, il a vu l'astre tomber durant cette nuit. Et ceci nous indique quoi? Ce nous indique qu'il ne dormait pas à ce moment-là. Alors immédiatement, Hussein ibn Abd al-Rahman, rahimahullah, il s'est repris et il a eu peur pour sa personne d'être tombé dans l'ostentation. Pourquoi? Car les gens qui ne dormaient pas à cette époque, généralement, c'était pour vouer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme à notre époque où les gens passent leur nuit dans des futilités, des distractions, parfois permises, ou même pire encore, détestables ou même interdites, ou Allah al-musta'an. Donc à leur époque, quand quelqu'un restait réveillé la nuit, c'était pour prier la nuit, c'était pour accomplir la prière de nuit. Donc, il s'est immédiatement repris et il a dit, rahimahullah, amma inni lam akun fi salah. Quant à moi, je n'étais pas en prière. Donc il leur a précisé de peur qu'ils pensent qu'il était en train de prier. C'est comme s'il leur disait « J'étais réveillé, je l'ai vu, mais ne pensez pas que j'étais en train de prier. » Il a eu peur de tomber dans l'ostentation et d'être complimenté pour une chose qu'il n'avait pas fait, rahimahullah ta'ala. Et ceci fait partie de la piété des salafs, de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et qu'ils étaient loin de l'ostentation, loin des riyas, loin de la vanité, car tout ceci s'oppose à l'ikhlas. Cela s'oppose au culte exclusif que l'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur situation, elle était donc différente de la situation des hypocrites. Ceux dont on compte parmi les caractéristiques qu'ils aiment être complimentés pour ce qu'ils ne font pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Et ils aiment qu'on les loue, qu'on les complimente pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ils aiment recevoir des compliments. Ils aiment recevoir des louanges même s'ils n'ont pas fait les actes. Si quelqu'un le voit
par exemple, fatigué le matin et qu'il pense qu'il a prié la nuit, il va le laisser, il va être content que la personne ait pensé ça de lui, même s'il ne l'a pas fait. Donc si tu ressens une de ces choses en toi, tu dois t'empresser d'y remédier, de te détacher de cela. Tu dois soigner ton cœur et chercher à le purifier de toute forme d'ostentation, de toute forme de vanité, et te détacher de l'amour des compliments des gens. Donc il a précisé ensuite pourquoi il était réveillé. Et il a dit « Walakin nilodertu ». Cependant, je me suis fait piquer. C'est-à-dire qu'il a été piqué par un animal venimeux comme un scorpion ou autre. Et c'est la cause qui l'a maintenu éveillé durant cette nuit-là. Donc on voit à travers cela également que Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah, il n'a pas dit cela pour feindre la sincérité. Car il y a des gens qui font cela, qui disent « je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas atteint tel niveau, moi je ne prie pas la nuit », mais ils cherchent à cela, à se vanter de quoi ? Se faire paraître pour quelqu'un de modeste. Wal'iyadu billah. Alors que Hussein ibn Abdurrahman, on voit qu'il est resté réveillé, pourquoi ? Parce qu'il s'est fait piquer pour un scorpion. Et il a précisé cela aux gens de l'assise et notamment à Saïd ibn Jubayr. Donc Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qala fama sanat. Qu'as-tu fait après t'être fait piquer ? Car il fait partie de l'habitude de celui qui se fait piquer qu'il va chercher un remède afin de se soigner contre le mal de cette piqûre. Alors Hussein, il lui a dit, rahimahullah, kultur taqaytu. Je dis, j'ai demandé à ce que l'on me fasse ruqya. C'est-à-dire que quelqu'un lui récite du Coran ou des invocations légiférées afin d'obtenir par cela, bi'idnillahi ta'ala, la guérison. Donc la ruqya, cela consiste à lire sur une personne malade ou une personne qui a été piquée des versets du Coran ou des invocations légiférées rapportées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore de souffler sur l'endroit de la blessure ou l'endroit de la partie douloureuse. Et ceci fait partie des remèdes les plus profitables pour la personne qui est malade, à condition que ceci soit fait avec certitude concernant celui qui fait la ruqya, la certitude que ceci est un remède profitable et que Allah subhanahu wa ta'ala donne la guérison par ce remède, et également la certitude de celui à qui on fait ruqya, c'est-à-dire celui qui est soigné. Les deux doivent avoir la certitude que ceci est une cause légiférée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et accordé à ses serviteurs, et que la guérison, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran en tant que guérison pour les gens. Une guérison des maladies morales, comme les maladies du polythéisme, maladies de la mécréance, les maladies de l'hypocrisie, les maladies des grands péchés. Il y a dans le Coran une guérison contre toutes ces maladies. Mais également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de son livre le Coran une guérison contre les maladies physiques, les maladies du corps. Lorsque la personne est malade et qu'elle utilise le Coran pour se soigner, ceci fait partie des choses qui sont légiférées et qu'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la ruqya a même été pratiquée sur lui et ceci fait partie des meilleurs des remèdes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا » Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Ensuite, après avoir écouté cela, après avoir écouté Hussein, donner le motif du fait qu'il soit resté éveillé la nuit et ce qu'il a fait suite à être piqué, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, il lui a posé une question très pertinente. Il lui a dit, « Fama hamalaka ala hada ?» Et qu'est-ce qui t'a mené à faire cela ? Et on voit à travers cette parole qu'il faisait partie des habitudes des salafs, rahimahumullah ta'ala, que lorsqu'une personne faisait un acte, que lorsqu'une personne faisait une parole, ils interrogeaient au sujet de la preuve de cette parole ou de cet acte. Quelle est la preuve sur laquelle tu t'es basé pour accomplir cela ? T'es-tu basé sur un verset du Coran, sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une guidée des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ou sur quoi ? Et il n'y a pas de mal en cela. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils font une chose, ou qu'ils prononcent une parole, et que tu leur demandes la preuve de ce qu'ils avancent, ils sont gênés. On dirait que c'est un dénigrement de ta part de réclamer la preuve de ce qu'ils avancent. Alors que ceci n'est pas un dénigrement. Ceci est ton droit lorsqu'on te présente quelque chose, qu'on t'expose une parole, qu'on t'expose un acte à faire ou autre, que tu demandes la preuve de cela. Ceci fait même partie des habitudes de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Ils demandaient donc la preuve. Chaque question, parmi les questions liées à la science, ou parmi les questions liées aux actes, ils avaient pour habitude de demander la preuve de la légitimité de ces choses. Est-ce que ceci est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna, ou d'où provient cette chose? Donc, on voit à travers cela le bon comportement de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne s'avançaient pas dans une chose sans avoir une preuve du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou alors une preuve de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et plus particulièrement dans ce domaine, le domaine de la guérison, le fait de se soigner. Car la personne, lorsqu'elle est malade, il se peut qu'elle recherche la guérison par tout moyen, même par des choses qui ne sont pas légiférées. Car la douleur de la maladie, la difficulté de la maladie, la pousse à se pencher vers des choses qui peut-être ne sont pas légiférées. Donc, Saïd ibn Jubair, rahimahullah ta'ala, il a interrogé Hussein afin de savoir si la chose qu'il avait faite, il l'avait faite en se basant sur une preuve de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur qu'il ait fait une chose sans se baser sur une preuve. Et ceci nous indique également qu'en termes de remède, il n'est pas permis d'accomplir des choses sans avoir une preuve de la légitimité et de la permission de cette chose. Il est indispensable que la personne se renseigne sur la permission de cette chose par laquelle elle souhaite se soigner. On trouve certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils sont atteints de certains maux, ils se dirigent vers des sorciers ou des charlatans, des guérisseurs ou autres raqis qui se font passer pour des gens qui font la ruqya selon le Coran et la Sunna. Puis tu le vois ensuite revenir de chez cette personne et te rapporter des choses qui ne sont basées ni sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni sur la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et desquelles tu ne trouves aucune trace dans la guidée des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc il est important pour la personne qui est malade et qui cherche à se soigner de se renseigner au sujet des choses permises et au sujet des choses interdites à ce sujet. Il se peut même que la personne, en cherchant la guérison, elle finisse par quitter sa religion, wal'ayadu billah. Comment? Il se rend chez un charlatan qui lui demande d'accomplir certains actes. Égorge cette poule à tel endroit. Et délaisse-la. Égorge tel animal à tel endroit. Prononce cette parole qui est en fait une invocation des djinns, des shayatins, wal'ayadu billah. Et la personne, elle va accomplir cela recherchant quoi? Recherchant la guérison. Et à supposer qu'elle soit guérie par la suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la met à l'épreuve en la guérissant suite à cet acte de polythéisme. Qu'aura-t-elle gagné si elle a soigné son corps, mais qu'elle a perdu sa croyance et est sortie de la religion de l'islam? Wallahu al-musta'an. Donc on voit que ceci est une chose très dangereuse de laquelle il est important de se prémunir et de se renseigner avant de s'avancer dans quoi que ce soit. Ensuite, Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah, il a répondu à Saïd et lui a dit « Qultu hadithun haddathanahu al-Sha'bi ». Je me suis basé sur un hadith que nous a rapporté al-Sha'bi. C'est-à-dire, ceci est ma preuve sur ce que j'ai fait. Et al-Sha'bi, c'est Amir ibn Shurahil, un des imams parmi les imams des tabi'in, également parmi les disciples, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Alors Saïd, il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit « c'est bon, il s'est basé sur un hadith, l'affaire est terminée ». Il lui a demandé « wa ma haddathakum ». Et que vous a-t-il rapporté? Quel est ce hadith qu'il vous a rapporté? Informe-moi de ce hadith afin que j'en prenne connaissance. Il lui a dit « Haddathana an Buraïda ibn al-Husayb ». Il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce tabi'i, al-Sha'bi, il rapporte de Buraïda, un des compagnons, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La ruqyata illa min aynin uhuma ». Il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre l'œil, c'est-à-dire contre le mauvais œil, ou contre le venin. C'est-à-dire, il n'y a pas de ruqya plus profitable et dans laquelle on trouve le plus souvent la guérison, si ce n'est la ruqya contre le mauvais œil et contre le venin. Le mauvais œil, c'est ce qui a lieu suite à la jalousie de l'envieux que l'on trouve chez certaines personnes. Il regarde une chose et directement cette chose est atteinte par son regard, wallah al-musta'an. Car son regard, en réalité, il est empoisonné par l'envie et la jalousie. Et ceci fait partie des choses surprenantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qu'il a permis que cela se produise chez ses créatures. Donc la personne qui porte le mauvais œil, si elle regarde une chose, elle regarde un animal, elle regarde un objet, tu vois cette chose atteinte par son regard, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui permet cela afin de mettre à l'épreuve ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé dans le hadith authentique que le mauvais œil est vérité. Il a dit « al-aynu haqq ». Le mauvais œil est vérité. Et un homme a été atteint par cela à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé qui lui avait porté le mauvais œil. Il a demandé à ceux qu'il vienne, qu'il se lave, et l'eau avec laquelle elle s'est lavée, elle a été récupérée et versée sur celui qui avait été atteint.
celui qui avait été atteint par le mauvais œil. Et il a été guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce moment-là, « Al-aynu haqq wa inistursiltum farsilu. » Le mauvais œil est vérité. Si on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. C'est-à-dire pour donner l'eau avec laquelle vous êtes lavé à la personne qui était atteinte par votre regard. On trouve aujourd'hui certaines personnes, si quelqu'un leur demande cela, il va s'enfler d'orgueil. « Comment ça, moi, je t'ai porté le mauvais œil ? Tu crois que je t'envie ? Je me moque de ta voiture, je me moque de ta maison ou autre chose comme ça. » Il va s'enfler d'orgueil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné l'ordre. Si on te demande de te laver, lave-toi. Si tu ne l'as pas atteint par ton mauvais œil, alhamdulillah, fais lieu qu'as-tu à perdre à donner cette eau à ton frère et que peut-être il obtienne la guérison. Peut-être que tu l'as atteint par l'œil sans le vouloir. Ce n'est peut-être pas une chose de ta volonté. Peut-être que tu as été surpris de le voir dans telle voiture ou de le voir acheter telle maison ou de le voir avec tel vêtement ou autre chose qui t'a surpris et l'œil lui a été porté suite à cela. Donc lave-toi, donne-lui l'eau et peut-être que tu sauras la cause de sa guérison par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu souhaites éviter cela, il convient lorsque tu vois une chose qui t'étonne d'invoquer pour cela en faveur de ton frère la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois ton frère dans une situation qui te surprend, tu dis Allahumma barik lahu. Tu invoques pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et bénisse ses biens afin de le préserver de ton mauvais œil. Donc ceci est un des remèdes pour la personne qui est atteinte par le mal du mauvais œil. Également, il est permis et légiféré de se soigner par la ruqya, de se soigner par la ruqya pour la personne qui est atteinte par le mauvais œil, et ceci fait partie des remèdes les plus profitables. C'est-à-dire que l'on récite sur la personne qui est atteinte le Fatiha, les trois dernières sourates du Coran, par exemple. Ce n'est pas une condition pour faire ruqya à un de tes proches ou pour te faire ruqya à toi-même que tu connaisses par cœur l'ensemble du Coran. Il te suffit de connaître la Fatiha et les trois dernières sourates du Coran et tu te fais ruqya toi-même. Tu te soignes par la ruqya bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le hadith, Ohumma, c'est-à-dire il n'y a pas de ruqya plus profitable et qui soigne le plus si ce n'est la ruqya contre le mauvais œil ou contre le venin. On a dit donc le venin, c'est la piqûre des animaux ou des insectes venimeux comme le scorpion ou le serpent ou autre. Et ceci est ce pourquoi Hussein a cité ce hadith. C'est-à-dire, il a mentionné ce hadith pour dire que la ruqya est profitable contre le venin et lui, il s'est fait piquer. Et c'est pour cela qu'il a demandé à ce qu'on lui fasse ruqya. Et ce hadith, il ne veut pas dire que la ruqya est limitée et restreinte à celle faite pour le mauvais œil ou pour le venin. Contre le mauvais œil plutôt ou contre le venin. Mais les savants ont précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, la ruqyata, il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre l'œil ou contre le venin, c'est-à-dire il n'y a pas de ruqya plus profitable. Et il n'y a pas de ruqya dans laquelle la guérison est la plus courante si ce n'est la ruqya contre le mauvais œil ou le venin. Mais sinon, la ruqya, elle est profitable pour l'ensemble des maladies. Que ce soit une maladie due à l'œil ou à la sorcellerie, ou une maladie physique comme le rhume, une mal de tête, une blessure ou autre, la ruqya, elle est profitable en tout cela. L'essentiel est que tu récites des choses qui sont légiférées, comme le Coran ou des invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu places ta confiance uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Hussein ibn Abdurrahman a rapporté la preuve sur laquelle il s'est basé pour demander la ruqya, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Qad ahsana man intaha ila ma samih » A certes bien fait celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. C'est-à-dire, tu as écouté ce hadith, tu l'as mis en pratique, tu as bien fait. Tu n'es en aucun cas blâmable pour avoir mis en pratique un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc fait les éloges de l'acte de Hussein. Il l'a approuvé et il a précisé qu'il avait fait une chose qui est permise et légiférée étant donné qu'il s'est basé sur un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit à travers cela le bon comportement des salafs, rahimahumullahu ta'ala, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'es basé sur un hadith, donc je ne peux pas te blâmer. Certaines personnes aujourd'hui, elles s'enorgueillissent sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voire même certains, ils se moquent de certaines personnes qui veillent à suivre pas à pas les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils blâment certaines personnes qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains agissements, certaines sunnans qu'ils mettent en pratique. Puis lorsque tu veux les rappeler à l'ordre et leur dire « Mais je ne fais que ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il se moque et ne tient pas compte du hadith. Et se détourne ainsi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal'ayadu billah. Alors que Saïd ibn Jubayr,
Rahimahullah, lorsqu'il a écouté le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé l'acte de Hussein. Et ceci fait donc partie des bons comportements des salafs, rahimahumullahu ta'ala, ainsi que des imams et des savants. Et ceci fait partie des comportements qu'il convient aux musulmans d'adopter. Ensuite, Saïd ibn Jubayr, il a précisé une chose à Hussein. Il lui a dit, « Walakin, haddathana ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum. » Cependant, Ibn Abbas nous a rapporté. C'est-à-dire qu'il lui a rapporté un autre hadith. Ici, Saïd, il a approuvé l'acte de Hussein car il s'est basé sur la preuve qu'il connaissait. Mais il va l'informer d'une autre preuve, d'un autre hadith qui donne une autre précision à ce sujet et il va l'orienter vers une œuvre meilleure et plus méritoire que celle qu'il a mise en pratique. Donc on a dit Saïd, c'est un des élèves d'Ibn Abbas. Donc il rapporte ce hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. Il dit « Haddathana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. Il rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les communautés m'ont été présentées, c'est-à-dire lorsque les communautés viendront au jour de la résurrection pour se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah lui a fait grâce de lui faire voir ce moment lorsque les communautés viendront et seront présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'ai alors vu un prophète et avec lui un groupe de gens, c'est-à-dire moins de 10 personnes. Rat, en arabe, cela désigne un groupe de personnes inférieur à 10. C'est-à-dire que ce prophète-là, qu'il a vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas été suivi par 10 personnes de sa communauté. Et l'ensemble des gens de sa communauté, en dehors de ces 10, inférieur à 10 plutôt, ils ont mécru au message de ce prophète, alayhi salam. Ensuite, il dit وَالنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلْ وَالرَّجُلَانِ. Et j'ai vu un prophète avec un ou deux hommes. C'est-à-dire que toute sa communauté a mécru en lui et n'a pas accepté son message. Et il viendra au jour de la résurrection, ce prophète-là, avec seulement un ou deux hommes qui l'ont suivi sur la vérité, le message qu'il a transmis de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَالنَّبِي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ. Et j'ai vu un prophète avec personne avec lui. Il viendra seul au jour de la résurrection. C'est-à-dire que toute sa communauté a mécru à son message et l'a rejeté. Et nul dans sa communauté n'a cru à son message et n'a accepté la parole qu'il est venu transmettre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce hadith, mes frères, il nous prouve que le grand nombre de suiveurs, il n'est en aucun cas un signe ou une preuve que ces gens-là sont sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'un savant ou un prédicateur, un prêcheur à Allah, a beaucoup de suiveurs, beaucoup d'abonnés sur ses réseaux sociaux, beaucoup de vues sur ses vidéos, qu'il est sur la vérité. Ceci n'a aucun sens. Le fait qu'il a beaucoup de suiveurs, ce n'est en aucun cas la chose qui te permet d'évaluer qui est sur la vérité et qui est sur le faux. Regardez ce prophète, alayhi salam. Il viendra seul. L'autre viendra avec une ou deux personnes et l'autre avec même pas 10 personnes. Pourtant, ils sont tous venus avec le même message. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, écartez-vous du tarot. » Le premier est venu avec ce message, le deuxième avec ce message, le troisième avec ce message. Ils sont tous venus avec la même vérité. Pourtant, le nombre de suiveurs a différé. Donc, le grand nombre de suiveurs, ce n'est en aucun cas une preuve que la personne est sur la vérité. Cependant, on regarde les preuves démontrant que cette personne est sur la vérité. Quelle est la voie à laquelle cette personne appelle? Est-ce que ses discours sont conformes au texte du Coran et de la Sunna? Est-ce que ces discours sont conformes à la voie des pieux prédécesseurs de la communauté? Est-ce que celui-ci, dans ses discours, il suit la voie des savants qui l'ont précédé, rahimahumullahu ta'ala? Si tel est le cas, alors celui-ci est sur la vérité, même si ceux qui l'écoutent ne sont que très peu, même s'ils ne sont qu'un petit groupe, même si personne ne l'écoute, si ses paroles sont conformes au livre d'Allah et à la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à la voie des pieux prédécesseurs de la communauté, alors celui-ci est sur la vérité, c'est de lui que l'on doit prendre la science, et c'est lui que l'on doit suivre, et c'est de lui que l'on doit profiter. Quant à ceux qui s'opposent aux preuves, même s'ils sont très nombreux, ils ne doivent en aucun cas être suivis. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit au sujet de Nuh, alayhi salam, et de son peuple, « Wa ma amana ma'ahu illa qalil » Ceux qui ont cru avec lui n'étaient que peu nombreux. Nuh, alayhi salam, le premier des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. Ceux qui ont cru avec lui étaient peu nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, également dans le Coran, s'adressant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désirait que les gens entrent dans l'islam, qu'ils suivent son message. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, et la majorité des gens, la plupart des gens, ils ne sont pas croyants. Même si tu le désires, ils ne suivront pas ton message. Et telle est la situation aujourd'hui. La majorité des gens, ils sont sur le faux, ou bien dans le polythéisme, ou bien dans la mécréance, ou encore parmi les musulmans, dans les innovations et différentes voies d'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, nous mettons en garde contre cela, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le grand nombre, mes frères, ce n'est pas une chose qui te permet de distinguer qui est sur la vérité et qui est sur le faux. La personne, elle ne doit pas se laisser leurrer par cela. Car certaines personnes, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, etc., il va par exemple sur YouTube, il voit qu'un prédicateur, il a 10 000, 100 000, 400 000 abonnés, il se dit « Ah, celui-là, il est beaucoup écouté, ses discours, ils doivent être profitables. » Ceci n'est pas la manière de juger. Qui est-il tout d'abord? La première question que tu dois te poser, c'est qui est cette personne? D'où provient-il? Où a-t-il étudié? Qui l'a recommandé parmi les gens reconnus dans le domaine de la prédication et de la science? Ceci est la première question que tu dois te poser. Et tu ne dois pas te laisser leurrer par le grand nombre de ceux qui l'écoutent. Il se peut qu'ils soient nombreux, mais qu'ils soient tous sur le faux. Ils peuvent être 10, 20, 100 000, 10 000, 1 million et être tous sur le faux. Cependant, il est bon à noter que si le grand nombre est réuni avec le suivi de la vérité, alors ceci est une bonne chose. Le fait qu'un grand nombre de personnes suivent la vérité, ceci peut arriver dans certains pays, dans certains endroits et à certaines époques, que la majorité des gens dans un certain endroit ou à une certaine époque soient sur la vérité. Ceci a déjà eu lieu, et ça a encore lieu, et ça aura lieu, incha'Allah ta'ala, jusqu'à la venue de l'heure. Il se peut qu'à certains endroits, les gens de la vérité soient majoritaires. Donc ceci est une bonne chose. Il faut donc faire la distinction entre le fait de penser que le grand nombre est une preuve de la vérité et le fait de se réjouir du grand nombre de personnes qui suivent la vérité. Il y a des gens qui ne font pas la différence entre ces deux-là. Ils vont voir par exemple dire une personne, « Masha'Allah, il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui suivent la vérité. » Il se réjouit. Ils vont dire, « Regardez, il se réjouit du grand nombre. » Il ne se réjouit pas du grand nombre. Il remercie Allah d'avoir guidé tant de personnes à la vérité. Ceci est ce qui est visé. Si le grand nombre est réuni avec le suivi de la vérité, alors le grand nombre est une bonne chose. Cependant, le grand nombre à lui seul n'est pas la chose qui te permet de distinguer qui est sur la vérité. Donc la personne, elle ne doit pas se laisser leurrer par cela, de la même manière qu'elle ne doit pas délaisser la vérité sous prétexte que peu de gens la suivent. On trouve des gens aujourd'hui, ils disent « la majorité des gens sont avec un tel ou un tel ». Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Et ils pensent que ceci veut dire que comme ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas sur la vérité. Regarde les preuves, mon frère. Regarde les preuves du Coran et de la Sunna. Regarde qui t'appelle à suivre le Coran et la Sunna. Qui t'appelle au précepte du livre d'Allah, au précepte de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'appelle à mettre en pratique la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Et ainsi, tu sauras qui est sur la vérité et qui est sur le faux, bi'idhnillahi ta'ala. Il est donc obligatoire pour la personne de suivre la vérité. Peu importe le nombre de personnes et le nombre de suiveurs qu'ont les gens qui sont sur la vérité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après cela, « Idhrufi Ali sawadun azim ». C'est alors que j'ai vu une grande foule arriver. C'est-à-dire après ces trois prophètes qui sont venus, avec peu de suiveurs, il a vu une grande foule arriver. « Fadhanantu annahum ummati ». J'ai alors cru que c'était ma communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi les prophètes, celui qui viendra au jour de la résurrection avec le plus de suiveurs. Donc lorsqu'il a vu cette grande foule arriver, il a pensé que c'était sa communauté. Faqil Ali, hada Musa wa qawmuhu. Alors on m'a dit, ceci est Moussa, alayhi salam, avec son peuple. On voit donc à travers cela le mérite du messager d'Allah, Moussa, alayhi salam, car il fait partie des prophètes et des messagers, alayhi salat wa salam, qui viendront au jour de la résurrection avec le plus de suiveurs. Nombre de personnes parmi les enfants d'Israël ont suivi le message de Moussa, alayhi salam. Et ceci nous montre son mérite. Et ceci nous montre également que l'altération de la religion de Moussa, alayhi salam, elle n'est venue qu'après sa mort. La preuve est qu'il viendra au jour de la résurrection avec un grand nombre de suiveurs, c'est-à-dire un grand nombre de suiveurs sur la vérité qui l'ont suivi à son époque, alayhi salatu wassalam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكِ. Il dit: j'ai ensuite regardé et j'ai vu une autre grande foule arriver, plus grande que la première. Et on m'a dit: ceci est ta communauté. Et ensuite on lui a dit: وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Et il y a avec eux 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ceux-là, ils font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils rentreront au paradis sans être jugés et sans être châtiés. Ceci est donc un mérite immense qu'ils auront obtenu. Alors que les autres, parmi les créatures et parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront jugés selon leurs œuvres. Certains auront un jugement simple, un jugement facile. D'autres, on évaluera leurs œuvres, on pèsera leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions. Et il y a parmi les hommes, certains qui seront même châtiés et envoyés en enfer sans être jugés, à l'inverse de cela. Comme c'est le cas pour les mécréants, comme l'ont mentionné certains savants. Et ils ont divergé sur cette question. Est-ce que les mécréants seront jugés selon leurs œuvres au jour de la résurrection, ou bien entreront-ils directement en enfer sans être jugés? Ils seront directement jetés au châtiment. Ce qu'a soutenu le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme dans son livre « Al-Aqidatul Wasitiyya », c'est qu'on leur fera reconnaître leurs œuvres. Seulement, leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres, leurs œuvres de mécréance, leurs œuvres de polythéisme, elles leur seront présentées afin qu'ils les reconnaissent. Puis ensuite, ils seront jetés en enfer et châtiés à cause de celles-ci. Car les mécréants, ils ne pourront pas venir avec des hasanats. Ils n'ont aucune hasanat, ils n'ont aucune bonne action. Et s'ils font une bonne action dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la récompense de cette bonne action dans ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Donc s'ils ont fait une bonne action dans ce bas monde, en étant mécréants, ils seront récompensés par cette bonne action dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, ils n'auront que des mauvaises actions que leur fera reconnaître, puis ils seront jetés dans le feu de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après leur avoir dit cela, il s'est levé. Thumma nahada. Ensuite, il s'est levé. Wadakhala manzila. Et il est entré dans sa maison. C'est-à-dire qu'il a mentionné ce hadith aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, sans leur préciser qui sont ces 70 000 personnes. Il leur a dit qu'il y aura dans sa communauté 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Mais il ne leur a pas dit qui sont ces 70 000 personnes. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, de par leur désir ardent de connaître qui sont ces personnes, ils ont commencé à discuter entre eux. Qui sont ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment? Il dit, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, rapportant cela d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكِ. Alors les gens ont débattu, ont discuté au sujet de cela, c'est-à-dire au sujet des 70 000. Ils ont cherché à savoir qui étaient-ils. Qui sont ces 70 000 personnes qui obtiendront ce mérite dans l'au-delà? Pourquoi ils veulent savoir? Est-ce que c'est simplement pour avoir connaissance de cela? Non, c'est également pour savoir quelles sont, est-ce qu'il y a des œuvres à mettre en pratique pour pouvoir atteindre ce rang et faire partie des 70 000. Ce n'est pas simplement pour prendre connaissance de la réponse. Certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils apprennent la science, ils veulent juste savoir la réponse aux questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la récompense de cela? Etc. Mais tu regardes les œuvres, elles ne suivent pas les connaissances, wallahu al-musta'an. Alors que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils interrogeaient au sujet de la science, c'était par désir de la mettre en pratique. Par désir de connaître un acte qui leur permettra de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnaient donc une grande importance, notamment aux choses liées à l'au-delà, contrairement aux personnes qui ne se soucient que des choses mondaines. Aujourd'hui, il se peut que tu dises à une personne, il y a 70 000 parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en aura 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Il va t'écouter, peut-être qu'il ne va donner aucune attention à cela. Ne va pas chercher à savoir qui sont-ils. Peut-être même qu'il va penser, de toute façon, je ne suis pas concerné par cela. Alors que si tu lui parles d'un commerce fructueux ou d'un travail qui a un grand salaire, il va te demander tout de suite les renseignements à ce sujet. Où as-tu trouvé cette marchandise? Informe-moi du nom du fournisseur. Dis-moi comment je fais pour travailler dans cette entreprise. As-tu un contact à me donner ou autre? Et ce, car les cœurs, ils sont attachés aux choses de ce bas monde. Alors que les cœurs des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, de par leur pureté, ils étaient attachés à l'au-delà et ne donnaient aucune importance à ce bas monde. Alors il dit ensuite, فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peut-être sont-ils, certains ont dit donc dans la discussion, peut-être sont-ils ceux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. car ils sont les meilleurs de la communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne dans la communauté qui atteint le rang des compagnons. Personne, après eux, ne peut atteindre leur rang, car il leur suffit comme mérite d'avoir tenu compagnie au meilleur des hommes et au meilleur des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, en partant de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'aux plus petits d'entre eux, ce sont les meilleurs de la communauté. Et ils ont un mérite immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tasubbu ashabi » N'injuriez pas mes compagnons. Ne dénigrez pas mes compagnons. Walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa la nasifah. Il dit par celui qui tient mon âme entre sa main. Si l'un d'entre vous, il dépensait l'équivalent de Uhud en or, la montagne de Uhud, c'est-à-dire une quantité immense, ceci n'équivaudrait pas à la poignée ou la moitié d'une poignée que l'un d'entre eux dépensait. Car les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre qu'il les a agréés, qu'il est satisfait d'eux. Nombre d'entre eux ont reçu la bonne annonce du paradis de leur vivant. Malgré cela, ils ont continué leurs efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas relâché leurs efforts. Donc ils ont un mérite immense sur l'ensemble de la communauté. C'est eux qui nous ont transmis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui nous ont transmis les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont transmis cette religion. Donc si tu entends quelqu'un dénigrer, ne serait-ce qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors soupçonne cette personne quant à sa religion. Cette personne, en dénigrant un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle ne recherche pas seulement la personne du compagnon, mais elle veut s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la religion qu'il a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve certaines personnes aujourd'hui s'affiliant à l'islam, prétendant être cultivées, dénigrer certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend certains qui dénigrent Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hafiz al-umma, celui qui a rapporté le plus de hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il te suffit de savoir cela pour comprendre pourquoi il s'attaque à la personne d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, car en réalité ils veulent s'attaquer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, al-shi'a al-rafida, les chiites, les rafidites, qui dénigrent l'ensemble ou la majorité des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui vont même aller taxer de mécréance, wal-iyadu billah. Car il fait partie de la voix des gens du faux. Lorsqu'ils veulent s'attaquer à une personne, de s'attaquer aux gens qui sont autour de lui. Les chiites, ils savaient que s'ils venaient aux gens et dénigrer la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans n'auraient pas accepté leur message. Ils auraient rejeté immédiatement ceux avec quoi ils venaient. Alors ils se sont attaqués aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont attaqués aux transmetteurs. Et ceci est la voix des gens du faux que l'on retrouve encore aujourd'hui. Lorsque des personnes veulent s'attaquer à certaines personnes pieuses, à certains savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent d'abord par dénigrer les personnes de leur entourage. Celui-ci a un entourage mauvais. Il va commencer à dénigrer par exemple les élèves d'un savant. Pour ensuite en venir à quoi? À discréditer ce savant auprès de la masse des gens. Pourquoi? Car dans l'entourage de ce savant, tout le monde est mauvais. Et après, ils prétendent respecter le savant. Ils disent « Non, nous respectons ce savant. » Mais malheureusement, il a été trompé par son entourage. L'ensemble des gens qui sont autour de lui sont mauvais. Mais si l'ensemble des gens sont autour de lui sont mauvais, lui-même est mauvais. Connais-tu une personne bonne qui s'entoure que de personnes mauvaises? As-tu déjà vu une personne pieuse qui prend pour compagnon des gens qui sont mauvais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-mar'u ala dini khalili, falyandhur ahadukum man yukhalil » L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour ami proche. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il dit « I'tabiru an-nas bi-akhdanihim, fa innal mar' la yukhadin illa man yuhibbu » Jugez les gens en fonction de leur entourage. Car l'homme, il ne s'entoure, il ne fréquente que des gens qu'il aime. Donc si tout l'entourage de ce savant est mauvais, cela veut dire que tu cherches à dénigrer ce savant et nous dire qu'il est mauvais. Il ne s'est pas entouré de ces personnes sans les aimer. Donc on voit à travers cela la mauvaise voie qu'empruntent les gens du faux, et ce, à toute époque et en tout lieu. Donc, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont pensé qu'étant donné le rang éminent, que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont auprès d'Allah, ils étaient eux les 70 000 personnes à rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Certains d'entre eux ont dit,
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا.
Peut-être sont-ils ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont jamais donné d'associé à Allah
subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire ceux qui sont nés après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les enfants des musulmans, les enfants des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et ceux venus après eux, et qui sont restés de leur naissance jusqu'à mourir sur la saine nature, celle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala crée les hommes, la croyance authentique. Ils ont cru en Allah, cru en son messager sallallahu alayhi wa sallam, et n'ont donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est également un rang éminent. Donc ils ont supposé que ce groupe de personnes pouvaient être ceux qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et ceci nous montre le mérite de se préserver du polythéisme. En effet, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas supposé cela, que ces gens rentreront au paradis sans jugement ni châtiment, si ce n'est par leur science et leur connaissance du mérite de se préserver du polythéisme. Malgré cela, celui qui a commis du polythéisme, puis qui ensuite est entré en islam et s'est repenti, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, car le repentir efface tout ce qui le précède. Mais malgré cela, il y a tout de même un mérite pour celui qui n'a jamais donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils ont supposé que ces gens qui sont nés dans l'islam, ont grandi sur l'islam et sont morts sur l'islam pouvaient être ceux qui entreraient au paradis sans jugement ni châtiment. Et ceci nous prouve également, mes frères, l'importance de l'éducation des enfants sur la religion authentique et l'importance de les préserver des méfaits du polythéisme, des méfaits de l'innovation, des méfaits des péchés et ainsi de suite par les choses mauvaises qui peuvent pervertir l'éducation des enfants des musulmans. Il est important de les préserver afin qu'ils restent sur leur saine nature, celle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, les éduquer selon les préceptes de la religion de l'islam, même si cela s'oppose à la société dans laquelle tu vis. La base sur laquelle tu dois te référer dans l'éducation de tes enfants, c'est les préceptes de l'islam. Est-ce que ceci est conforme à la religion de l'islam? Est-ce que ceci est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi quant à l'éducation de mes enfants? Si tel est le cas, alors c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois le louer pour cela. Et si ce n'est pas le cas, tu dois t'empresser de te corriger, de te réformer et de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver tes enfants de ces mauvaises voies. Donc ils ont dit, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Peut-être ce sont ceux qui sont nés sur l'islam et qui n'ont donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre également le danger du shirk. Car le shirk, il conduit la personne au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Certes, quiconque donne des associés à Allah, alors le paradis lui est interdit. Celui qui a fait du shirk, le paradis lui est interdit. Quelle que soit la bienfaisance ou la bonté qu'il a eue dans ce bas monde. Même s'il faisait partie de ceux qui prient Allah ou qui prétendaient suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il meurt sur le polythéisme, en donnant des associés à Allah, en égorgeant pour autre qu'Allah, en égorgeant pour les morts, pour les djinns, pour les tombes ou autres, alors celui-ci, s'il meurt ainsi sans se repentir, le paradis lui est interdit et sa destination sera le feu pour les injustes. Il n'y aura point de secoureur. Cela nous montre donc, mes frères, l'importance d'apprendre à connaître qu'est-ce que le shirk. Car on dit qu'on doit s'écarter du shirk, s'écarter du polythéisme. Mais connaît-on les détails de ce qu'est le polythéisme? Il est indispensable pour le musulman de connaître le mal, et ce, afin de s'en préserver. Comme a dit Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, « Kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr, wa kuntu as'aluhu anil shar, makhafatan an yudrikani. » Les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Et moi, je l'interrogeais au sujet du mal. Pourquoi? Par peur qu'il m'atteigne. Il interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de s'en préserver et de s'en écarter. Radiyallahu ta'ala anhu. Donc tout ceci nous montre l'importance pour le musulman de connaître la croyance authentique et également l'importance de connaître tout ce qui s'oppose à cette croyance authentique et ce afin de s'en écarter et de s'en préserver. Ensuite il dit... ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. Ensuite, après cette discussion entre les compagnons رضي الله تعالى عنهم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est sorti à eux et ils l'ont informé. C'est-à-dire, ils l'ont informé de la discussion qu'ils avaient tenue, des propos et des suppositions qu'ils avaient faites au sujet de ces 70 000 personnes. Ceci nous montre donc la légitimité de débattre au sujet de la science, d'un débat respectant les règles légiférées à ce sujet, comme l'ont fait les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Chacun a émis une supposition. Et après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renvoyé l'affaire à celui qui a connaissance de cela. Il y a également donc dans cela la légitimité de revenir aux gens de science afin de trancher sur les questions. Chacun a émis une supposition, mais ils ne savaient pas quelle était la bonne supposition. Quelle était celle qui concordait avec la vérité? Ils sont donc retournés aux savants, qui étaient à leur époque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a informé des caractéristiques desquelles se part ce groupe de personnes qui rentrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Humu alladhina la yastarqoun, wa la yaktawoun, wa la yatatayyaroun, wa ala rabbihim yatawakkaloun. » Ils sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, qui ne demandent pas qu'on leur fasse la cautérisation, qui ne croient pas aux augures et qui en leur Seigneur seul place leur confiance. Donc il dit « Humu alladhina la yastarqoun », c'est-à-dire ils ne demandent pas autrui de leur faire ruqya. Pourquoi? Car le fait de demander à une personne de te faire ruqya, c'est une demande que tu adresses à une créature aussi faible que toi. Donc, il y a dans la demande une sorte d'avilissement pour la personne, une sorte de rabaissement. Et la plénitude de la confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala, elle exige de toi que tu t'en remettes à Allah seul subhanahu wa ta'ala, et que tu ne demandes rien aux créatures, sauf en cas de nécessité ou de force majeure. Donc cela, la première caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Et ce, car ils ont placé pleinement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tels étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils évitaient autant que possible de solliciter une créature. Et ils faisaient en sorte de tout faire d'eux-mêmes et de ne rien demander aux gens. Comme on rapporte d'eux que lorsqu'ils étaient sur leur monture et qu'ils faisaient tomber leur cravache, leur fouet, duquel on se sert pour taper sur la monture. S'ils le faisaient tomber, ils descendaient du chameau pour le ramasser seul. Malgré qu'il y avait des gens qui marchaient à côté d'eux durant les voyages. Mais pour éviter de solliciter une créature, ils le faisaient eux-mêmes et ne sollicitaient personne. Et ceux qui à leur cœur étaient attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne voulaient pas dépendre d'une autre créature. Et tel est celui qui a concrétisé le tawhid dans son cœur. Cependant, il y a certaines personnes, lorsqu'on leur parle de ce sujet, ils pensent qu'il n'est alors permis d'adresser aucune demande à personne. Ils ne demandent plus rien à personne. À tel point que même lorsqu'il a une question religieuse, il ne veut pas s'adresser aux gens de science, aux étudiants en science ou à l'imam de la mosquée ou autre. Il dit « Moi, je ne demande rien à personne, je me débrouille tout seul. » Après, il va aller sur Internet, il va se perdre, il va regarder des choses sans distinguer le vrai du faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné, lorsque tu ne sais pas une chose, de demander aux gens de science. Il a dit subhanahu wa ta'ala « Fas'alou ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et ceci ne fait pas partie des demandes qui sont réprouvées en islam. Au contraire, c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enjoint, tu dois donc t'y soumettre. Si tu ne sais pas une chose, tu la renvoies à ces gens et tu interroges les gens de science. De la même manière qu'il est permis pour la personne qui se trouve en grande difficulté, en cas de force majeure, de demander à ses frères de l'aide, que ce soit une aide financière ou une aide physique ou autre. Et il n'y a pas de mal en cela, ceci n'est pas une demande qui est réprouvable. Mais ce qui est réprouvable, c'est de solliciter les gens alors que tu peux te passer d'eux. Sans raison, sans motif et sans aucun besoin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la deuxième caractéristique de ces 70 000 personnes et il a dit « Wala yaktawoun » et ils ne demandent pas qu'on leur fasse la cautérisation. Donc la cautérisation, c'est le traitement par le feu. Consiste, par exemple, à faire chauffer une plaque de fer et le poser bien chaude sur l'endroit de la maladie en brûlant la peau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la plénitude de leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'ils ne sollicitaient personne pour leur faire cela. C'est-à-dire qu'ils ne demandaient pas qu'on leur pratique la cautérisation. Et la cautérisation, cela fait partie des remèdes qui sont légiférés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit dans un hadith que la guérison se trouvait dans trois choses. Il a mentionné parmi celles-ci le miel, la hijama et également la cautérisation par le feu. Et dans une autre version du hadith, il a dit « Wa ana akrahul kayi » et je réprouve la cautérisation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprouvée malgré qu'elle soit permise. Ceci nous indique que ceci ne doit être pratiqué, premièrement, que par une personne qui a la science afin de pratiquer cette manière de se soigner, et deuxièmement, qu'en cas de nécessité. Si c'est le moyen te permettant d'obtenir la guérison. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Wala yatatayyaroun » et il ne croit pas aux augures. « At-tatayyur » il consiste à croire que le mouvement des oiseaux, il indique si une chose elle va être profitable ou nuisible. Les Arabes le pratiquaient beaucoup à l'époque de la Jahiliya. Ils croyaient aux augures. Par exemple, s'ils souhaitaient entreprendre un voyage, ils prenaient un oiseau et le jetaient en l'air et disaient s'il part à droite, alors le voyage serait quelque chose de profitable et il partait. Et s'il partait à gauche, l'oiseau, ils annulaient ce voyage. Alors que les mouvements des oiseaux, ils n'ont aucune influence sur ce qui se passe dans l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour cette communauté ce qui est bien mieux que cela. Et c'est la prière de consultation. Salat al-istikhara. Lorsque tu souhaites entreprendre une chose, tu demandes conseil aux gens autour de toi, aux gens pieux. Ensuite, tu prends ta décision, tu pries deux unités de prière, puis ensuite, tu prononces l'invocation rapportée, l'invocation de la consultation, pour consulter ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, au sujet de cette affaire. Donc, at-tatayyur, ceci ne fait pas partie des caractéristiques des croyants. Mais cela s'oppose à l'unicité, au culte exclusif, voué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, l'optimisme, le fait d'avoir une bonne vision des choses, d'espérer le bien, ceci ne s'oppose pas au tawhid. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme. Il aimait que les gens espèrent le bien. C'est pour cela qu'il est recommandé aux musulmans d'avoir une bonne vision des choses, d'être optimiste, car ceci fait partie de la bonne opinion et du bon soupçon que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont toujours négatifs, qui n'espèrent pas le bien. Tu lui parles d'une chose, il te suggère une fin négative, toujours. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas cela, mais il aimait plutôt l'optimisme, que la personne aime le bien. Car celui qui aime le bien, qui espère le bien, cela veut dire qu'il a une bonne opinion de son créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, ils ont atteint ce rang car ils ont concrétisé en réalité la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est-à-dire que c'est la chose qui réunit les trois choses qui le précèdent. Ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Ils ne s'en remettent pas aux créatures. Ils délaissent les choses qui sont interdites comme le fait de croire aux augures. Et ils délaissent même les choses qui sont détestables comme le fait de demander à quelqu'un de leur faire ruqya ou de leur faire la cotérisation. Et pourquoi ils ont délaissé ces choses? Afin de détacher leur cœur des créatures, de se passer des gens et de s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les caractéristiques de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ils placent leur confiance pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, un compagnon s'est levé. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah, il dit فَقَامَ حُكَّاشَةُ ibn Mihsan. Hukasha ibn Mihsan, il s'est levé. C'est donc un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un des premiers à être entré en islam, un de ceux qui ont participé à la bataille de Badr et ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans d'autres batailles. Et il est resté vivant après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a combattu lors des guerres contre les apostats sous le califat de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu jusqu'à mourir en martyr lors de cette guerre. Il a dit radiyallahu ta'ala anhu Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Invoque Allah afin qu'il me place parmi eux, parmi ces 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et il y a en cela la permission pour la personne de demander à l'homme pieux d'invoquer en sa faveur. Car il a fait cela à Kasha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Il lui a dit invoque Allah pour qu'il me place parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré cet acte de Kasha. Cela nous montre donc qu'il est permis pour la personne de demander à une personne pieuse d'invoquer en sa faveur. Cependant, il est préférable, comme l'ont mentionné les gens de science, de délaisser cela et d'invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala, car il répond aux invocations de ses serviteurs lorsqu'il invoque. Donc Ukasha, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le placer parmi ces gens-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé une très bonne nouvelle et il lui a dit « Anta minhum, tu fais partie d'eux ». Et ceci est un des signes de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il lui a annoncé qu'il ferait partie de ces 70 000 personnes. Et on voit que Ukasha, il est mort comment? Il est mort en martyr. Il a atteint le degré des martyrs qui est un des rangs les plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait donc partie des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. ثم قام رجل آخر. Ensuite, un autre homme s'est levé. فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. Invoque Allah afin qu'il me place parmi eux. Un autre homme parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum, il s'est levé et il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a demandé Ukasha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, سبقك بها عكاشة. عكاشة t'a précédé dans cette demande. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé sa demande, mais d'une belle manière. Il ne lui a pas dit, non, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Non, tu n'as pas atteint ce rang. Non, tu ne mérites pas de faire partie d'eux. Mais il lui a simplement dit, Ukasha t'a précédé. Il t'a précédé dans cette demande. C'est trop tard. Et il y a dans cela la permission de l'utilisation de ce que l'on appelle en arabe al-ma'arid, qui est, je pense, la traduction la plus proche en français, est l'euphémisme. Cela consiste à utiliser une expression afin d'atténuer le caractère déplaisant d'une chose, afin d'adoucir la réalité. C'est-à-dire, il a dit autre chose afin de lui faire comprendre qu'il n'allait pas faire partie de ces gens-là. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela, et ceci fait partie de son bon comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Et on souligne également le bon comportement du rapporteur de ce hadith, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui n'a pas mentionné le nom de cet homme. Il a dit, « Thumma qama rajulun akhar ». Un autre homme s'est levé. Et il n'y a pas d'utilité à mentionner son nom. Nul besoin pour nous de savoir qui était cet homme. Il nous suffit de savoir, de tirer comme bénéfice la manière qu'a eu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se comporter avec lui. Alors que la chose qui était bénéfique et profitable, qui était utile, dans laquelle il y avait une éloge, le rapporteur du hadith l'a mentionné. Il a mentionné le nom de Ukasha. Mais la chose qui était en quelque sorte négative, il ne l'a pas mentionné, il a dit, puis un autre homme s'est levé. Et il a tué son nom. Et il ne l'a pas mentionné, c'est ainsi que le musulman doit se comporter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc rejeté sa demande, comme on l'a vu, et ceci fait partie de son bon comportement, car, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, il était d'une moralité éminente. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tel doit être celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit avoir un bon comportement avec les gens. Par ton comportement, tu peux être la cause d'entrer des gens en islam. Par ton comportement, tu peux être la cause que des gens s'accrochent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et inversement, par le mauvais comportement, la personne peut faire fuir les gens de l'islam, faire fuir les gens de la sunna. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela et de nous compter parmi ceux qui adoptent un bon comportement et suivent en toute chose le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce récit et de ce hadith immense au sujet des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu.